Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre avec Jean Garrigue. Bonsoir Jean Garrigue.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble pour donc une petite heure pour parler de votre dernier livre, La tentation du sauveur, histoire d'une passion française. Alors, c'est pas dans votre dans vos recherches, Jean Garrigue, c'est pas tout à fait nouveau puisque non. Vous avez déjà publié il y a 10 ans. Un premier livre sur l'homme providentiel ou les hommes providentiels. Et donc cet ouvrage donc, dont nous parlons ce soir est un peu l'enrichissement, l'extension, l'enrichissement, la modernisation aussi, puisque depuis 2012, je ne sais pas si on a eu des hommes et des femmes providentiels depuis, vous nous le direz, mais en tout cas...
Certains ont essayé, oui.
On a eu en tout cas des personnages qui en tout cas se sont sentis concernés par ce profil que vous allez nous aider à décrypter. Donc Jean Garrigue, vous êtes historien de la politique, vous êtes émérite maintenant, mais enfin vous êtes un peu jeune pour être émérite quand même, mais enfin bon.
Oui, mais je suis parti très tôt.
Vous êtes émérite et donc de l'université d'Orléans. Alors j'évoque Orléans puisque c'est comme la ville de Jeanne d'Arc.
Ouais.
Et Jeanne d'Arc, c'est quand même dans notre histoire, c'est quand même un homme, plutôt une femme providentielle.
Ouais, hein, c'est le premier de nos hommes providentiels.
Ouais, premier, peut-être après Vercingétorix.
Mais Vercingétorix, c'est un peu controversé quand même.
Voilà.
Mais
bon, donc en tout cas, Jeanne d'Arc, c'est incontestable. Et donc vous serez peut-être amené à nous en dire un mot.
Tout à fait.
Donc vous êtes spécialiste, donc vous n'êtes pas spécialiste de Jeanne d'Arc, mais vous la connaissez bien.
Ah, oui.
Vous êtes plutôt spécialiste de la période moderne. Vous êtes,
même contemporaine.
Contemporaine.
Donc spécialiste en histoire.
Voilà. Voilà, spécialiste de l'histoire parlementaire, spécialiste de la Troisième République. Vous présidez toujours, je crois, le comité d'histoire parlementaire.
Tout à fait.
Et politique, voilà. Et parmi vos très nombreux ouvrages, j'en ai retenu un, puisque nous sommes à Bordeaux, vous êtes intéressé à Jacques Chaban-Delmas.
Hein. Oui.
Alors voilà, je ne sais pas d'ailleurs de quand date l'ouvrage dont je parle.
Oh, c'est un ouvrage.
Est-ce que c'était de son vivant, je crois, hein.
Je ne sais même plus si c'est... Je ne crois pas que c'était de son vivant. C'était après.
Juste après.
Et c'est un ouvrage qui est paru dans une collection, hélas disparue aujourd'hui, qui est une collection qui s'appelle Tribun, qui était coéditée par l'Assemblée nationale et qui essaie de mettre en valeur les grands hommes de notre vie parlementaire. Il y avait eu Jaurès, il y avait eu Clémenceau, etc. Et ça m'avait beaucoup intéressé de parler de Chaban-Delmas dans son rôle de parlementaire et de président de l'Assemblée nationale, parce que ça a été le plus grand et le plus long président de l'Assemblée nationale. Il a beaucoup œuvré pour ça, et je pense qu'il a un peu, en quelque sorte, inventé la fonction. Alors, il y avait eu Édouard Herriot avant lui, sous la troisième, la quatrième, et la quatrième, mais Chaban a joué un très grand rôle pour expérimenter et acclimater ce que devait être un président de l'Assemblée nationale. Du temps où l'Assemblée nationale avait une véritable importance, qui est aujourd'hui moins le cas.
Moins le cas. Alors, au risque de décevoir les Bordelais qui sont ici, Jacques Chaban-Delmas ne figure pas dans la grande famille des hommes providentiels. Peut-être est-ce un oubli de votre part. Ou est-ce qu'il ne cochait pas toutes les cases, comme on dit aujourd'hui?
Non, il cochait pas toutes les cases, même si c'est un homme politique qui a compté, qui était un novateur, un pionnier par certains égards, un premier ministre qui a beaucoup souffert sous la férule du président Georges Pompidou. Mais Jacques Chaban-Delmas n'a jamais fait figure de ce rassembleur presque incontestable qui est l'archétype de l'homme providentiel.
Alors donc, en tout cas, il y a du beau linge, hein, comme on dit dans ce livre. Hein, donc, on part. Alors, on a parlé de Jeanne d'Arc, mais bon, vous avez plutôt fixé le point de départ à Napoléon, enfin oui. Bonaparte, puisque donc l'accession de Bonaparte au pouvoir, c'est vraiment l'irruption dans notre vie politique d'un homme providentiel.
Tout à fait.
Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis on va de Bonaparte jusqu'à Macron, hein, jusqu'à Emmanuel Macron. Alors bon, évidemment dans un style tout à fait différent.
Ah oui.
Que vous avez vous le citez, vous lui consacrez quand même quelques pages. Et puis alors on passe évidemment par toute une famille qui comprend alors des hommes de droite et des hommes de gauche, des politiques et des généraux. Alors bien sûr le général de Gaulle, bien sûr, mais également le maréchal Pétain qui a été véritablement pour 40 millions de Français un sauveur au moment où il accède au pouvoir.
Elle était 40,
même s'il est par ailleurs le fossoyeur de la République, mais bon.
Tout voilà. À fait.
Nous avons évidemment d'autres figures comme Clémenceau, le père La Victoire, donc vainqueur de la guerre de 14-18. Nous avons aussi Gambetta, hein, qui lors d'une carrière assez courte mais très très mémorable, incarne à lui tout seul la démocratie. Donc
voilà. C'est mon préféré.
C'est peut-être votre préféré. Alors vous allez nous en parler. Et puis alors il y a Napoléon III, il y a Pierre Mendès France. Voilà. Donc tout un tas de gens très différents. Alors ma première question, Jean Garrigue, avec tout ça, est-ce qu'il y a un archétype de sauveur, et en tout cas, quels sont vraiment les points essentiels pour reconnaître un homme ou une femme providentielle, surtout des hommes d'ailleurs.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un travail sur l'homme providentiel, on est toujours un peu, comment dire ça, à cheval ou entre la réalité et le mythe. Parce que, au fond, le mythe, c'est-à-dire la manière dont on se représente ces figures-là, est presque aussi importante que la réalité de leur action et éventuellement de la manière dont ils ont gouverné. Parce qu'ils n'ont pas tous gouverné. Le général Boulanger, par exemple, n'avait pas gouverné. Et c'est d'ailleurs le général Boulanger qui, il y a très longtemps, c'était un de mes premiers livres, j'avais fait une biographie du général Boulanger, m'avait donné l'idée, justement, de travailler sur ces hommes providentiels. En reconnaissant aussi une réflexion et un travail pionnier qui avait été fait par un historien qui s'appelle Raoul Girardet, et qui, dans un petit livre sur les mythologies politiques dans les années 80, avait défini à peu près ce qu'il percevait, lui, de cette tradition providentialiste. Donc, pour la définir, ceux que je fais entrer dans ce cadre sont des hommes qui, à un moment de crise, de difficultés de la société française, très souvent en période de guerre, mais pas simplement, dans des périodes difficiles, apparaissent comme ça et sont capables, pour des tas de raisons, quelquefois qui tiennent à leur charisme, quelquefois qui tiennent simplement au fait qu'ils sont là au bon moment, sont capables de générer derrière eux une sorte de courant presque irrésistible, en tout cas pour quelques mois, pour quelques années, un courant presque irrésistible qui fait que, aux yeux d'une majorité de Français, de droite et de gauche, comme dit l'autre, et de droite et de gauche, mais pas toujours, aux yeux d'une majorité de Français, ils incarnent une solution aux problèmes qui se posent à la société française, et ils l'incarnent en général parce qu'ils apparaissent comme des hommes nouveaux, ou en tout cas des hommes qui sont un peu à l'extérieur de ce qu'on appelle le système politique. Donc il y a cette conjonction entre une circonstance difficile, une incapacité de la société française à résoudre collectivement les problèmes qui se posent, et puis l'émergence de ces personnages, plus ou moins intégrés d'ailleurs déjà à ce système, mais dont le discours consiste à dire qu'ils sont hors de ce système et qu'ils portent par cet élan qu'ils génèrent des solutions. Et de ce fait, ils vont faire rejouer quelque chose de très irrationnel, d'émotionnel, qui remonte à l'Ancien Régime, d'ailleurs, parce que c'est une forme de nostalgie du monarque d'Ancien Régime, quelque chose d'irrationnel, une sorte de religiosité politique qui fait qu'on parle justement d'hommes providentiels. Ils sont des envoyés de la Providence. C'est ainsi qu'ils apparaissent. Alors, ça peut être plus ou moins véridique, plus ou moins réel, plus ou moins bref, mais c'est toujours cette mécanique-là qui...
Alors effectivement, on sait que souvent la mystique se dégrade en politique, hein, souvent. Oui. Donc, mais là, vous restez sur le plan de la mystique. D'ailleurs, ce livre donc ne raconte pas Bonaparte, ne raconte pas De Gaulle, ne raconte pas Gambetta, mais par contre s'intéresse spécifiquement à ceux qui, dans leur parcours, relèvent de cette religiosité politique. Exactement. Ou de ce projet messianique qu'ils ont parfois d'incarner une solution, d'incarner une figure, d'incarner une idée aussi, voilà.
Exactement.
Donc voilà, donc il y a tout ça. Et alors peut-être la première, une question qui m'est quand même à traverser, c'est qu'il y a dans cette famille des hommes providentiels beaucoup de militaires quand même. Hein. Bon, Bonaparte est un militaire, maréchal Pétain est un militaire, le général de Gaulle est un militaire, il y a le général Boulanger. Bon, ils sont quand même assez nombreux. Donc, alors est-ce qu'il faut toujours porter un sabre pour ce est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important et de très et qui aide beaucoup à convaincre les gens que on a la solution, c'est-à-dire où est-ce que au contraire c'est parce que la nation est en danger et il faut à ce moment-là faire appel à l'armée pour et donc à son chef ou à un de ses chefs pour résoudre ou protéger la nation.
Plus qu'à l'armée, je dirais, à une capacité d'incarnation patriotique. Par exemple, alors c'est vrai que celui qui est un peu le père fondateur de cette tradition, qu'on appelle d'ailleurs bonapartiste, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon qui apparaît au 18 Brumaire, tout est préparé depuis des années par lui-même et par son entourage pour que soit générée au moment du 18 Brumaire cette image d'homme providentiel. Il l'a préparé notamment pendant ses campagnes d'Italie, en publiant lui-même, en écrivant le courrier de l'armée d'Italie, dans lequel il explique que ses victoires militaires le légitiment pour trouver des solutions, celles que le directoire, c'est-à-dire cette gouvernance collective de la Révolution, n'arrive pas à trouver. Et que lui, si on lui fait confiance, parce qu'il est fort de ses victoires militaires, va pouvoir justement trouver les solutions qui s'imposent, et ce sera le consulat.
Donc c'est un propagandiste génial.
C'est un propagandiste génial, et c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans la plupart de ces personnages, c'est la manière dont ils préparent leur avènement, dont ils préparent justement ce rendez-vous messianique avec les Français. C'est jamais ex nihilo, il y a toujours quelque chose d'une préparation. On pourrait dire que pour le général de Gaulle, il apparaît le 18 juin 40, pas grand monde le connaît, l'opinion publique ne le connaît pas, et d'ailleurs ne le connaîtra pas véritablement avant 1944. Que certains auront entendu sa voix, on aura surtout vu des tracts de ses messages. Mais le général de Gaulle, c'est quand même quelqu'un qui, depuis le début des années 30 et même depuis les années 20, publie des ouvrages dans lesquels il explique ce que devrait être la stratégie française en cas de guerre, ce que devrait être le commandement. Et cette idée du commandement, il l'applique non seulement à la chose militaire, mais à la chose politique. Et puis c'est quelqu'un qui est très immergé déjà dans le monde politique, mais à la marge de ce monde, et avec des mêlées qu'on connaît avec le maréchal Pétain, dont il a été au départ le collaborateur, et puis dont il s'est distancié, heureusement. Donc, si vous voulez, il y a une préparation chez la plupart de ces hommes. Mais pour revenir à votre question, est-ce que je m'en suis un peu détourné, c'est plus l'incarnation patriotique que le militaire en soi. Je veux dire par là que Gambetta, par exemple, en 1870, Gambetta, c'est un civil, c'est un avocat, il a été l'un des fers de lance de l'opposition à Napoléon III. Il est un de ceux qui, le 4 septembre, ont proclamé la Troisième République au balcon de l'Hôtel de Ville à Paris. C'est un civil, mais c'est lui qui va totalement réorganiser la défense nationale en partant en ballon de Montmartre le 7 octobre 1870, et qui va totalement incarner, pour une majorité de Français, ce patriotisme de la France en guerre, celui qui va relancer la guerre contre les Prussiens. Et cette image-là, de cette incarnation patriotique, c'est quelque chose dont la société française est en recherche permanente. On voit bien, il y a quelques années, 2-3 ans, comment une figure comme celle du général de Villiers, par exemple, a émergé dans l'espace public. Alors, le général de Villiers étant un homme qui, manifestement, les idées le classaient à droite, si ce n'est à l'extrême droite, n'est pas une figure capable de rassembler une majorité de Français, pas plus d'ailleurs qu'Éric Zemmour, sur lequel je commence mon ouvrage, mais c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une recherche permanente de cette forme d'incarnation patriotique. C'est-à-dire que l'homme providentiel, il vient combler une forme de vide. Il vient combler le vide de l'incarnation politique. Et ça, c'est Claude Lefort qui parle du vide de la démocratie. C'est-à-dire que
le lieu vide, hein, c'est
ça. Le lieu vide de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, par définition, ben, c'est quelque chose de collectif. Et donc, a priori, on se défie, on a peur de l'incarnation, et le parlementarisme n'est pas fait pour l'incarnation. On sait bien que, justement, ce qui est intéressant, c'est que depuis Napoléon Bonaparte, notre histoire, parce que au fond, moi, j'ai l'impression que tous mes livres d'histoire, c'est toujours la même histoire. Enfin, c'est-à-dire que j'essaie de raconter sous des angles différents notre histoire politique depuis le début du 19e siècle. Et je me rends compte qu'à chaque fois, c'est le même rengaine, c'est je raconte la même histoire, mais sous des prismes différents. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis la Révolution française, vous avez eu le rejet de la figure d'incarnation monarchique, c'est-à-dire du pouvoir personnel, la figure d'autorité, et l'exaltation à travers la représentation parlementaire du collectif, du contre-pouvoir des mandants de la nation, des représentants de la nation. Mais en même temps, dès que cette révolution arrive un peu à bout de souffle, au moment du directoire, il y a la tentation de revenir à cette figure d'autorité. Et ça, c'est une schizophrénie française qui fait qu'il y a toujours eu besoin, à tout moment, et on en est encore là, enfin, en réalité, c'est ça qui est assez troublant, il y a toujours eu besoin de cette dualité, si vous voulez, entre, d'un côté, l'aspiration à la démocratie représentative, participative, directe même, et puis, de l'autre côté, une figure d'autorité, une figure de commandement, qui apparaît comme en mesure de résoudre ce que la démocratie n'a pas pu combler.
Alors, vous parlez du lieu vide de la démocratie. Donc, en France, évidemment, il est d'autant plus vide que le roi n'a pas été seulement écarté, il a été raccourci. Hein. Donc le fait d'avoir raccourci le roi, enfin, sur le plan symbolique, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que véritablement, il y a un vide, donc 1500 années de monarchie qui tout à coup sont évidemment brutalement rejetées. On imagine assez bien que la révolution, qui crée elle-même une nouvelle mythologie, qui écarte d'ailleurs les hommes providentiels, puisque dès que Robespierre commence à émerger, on lui coupe la tête, et on a plutôt la culture des grands hommes, des Lumières, avec Voltaire, avec Rousseau, avec Diderot.
Mais
la Révolution a plutôt tendance à se méfier de ces hommes providentiels.
S'en méfie tout en les mettant au pinacle, parce que à partir de Mirabeau, pour lequel il y a un engouement, une panthéonisation, et ensuite un retrait, Robespierre, enfin, on voit bien que entre Danton et d'autres, on voit bien que cette tendance à idolâtrer, elle reste très présente. Et ça, c'est une réminiscence de l'Ancien Régime, où il n'y avait pas de pouvoir sans vénération, sans religiosité, sans idolâtrie.
Mais alors, vous parlez de Bonaparte, donc qui émerge donc à la fin du directoire, qui se présente comme un homme providentiel et qui sait le faire savoir, parce que lui, il écrit des courriers, il envoie des dépêches, il crée des journaux, il sait parfaitement parler de lui. Sauf, mais comment dirais-je, au moment où il émerge, il y a beaucoup de généraux qui sont des généraux prometteurs. Augereau, il y en a Moreau,
Hoche,
il y en a plein, et donc Labessieyès qui est un peu le Pygmalion de l'époque de Bonaparte, lui est à recherche d'un sabre, il recherche
c'est
un
ça,
type, et ça aurait pu être, ce fut Bonaparte, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
Donc
l'émergence de l'homme providentiel se fait de manière un petit peu hasardeuse finalement.
Sieyès a testé, j'allais dire, sondé d'autres généraux avant. Notamment Hoche, mais Hoche a été tué, Pichegru, Joubert, etc. D'autres qui ont refusé.
Sur les jeunes généraux à Paris, il y en a partout.
Là, il y a eu vraiment, j'allais dire, Sieyès a fait son marché. Bon, il a trouvé celui quand même qui s'est imposé de lui-même. J'en parlais tout à l'heure avec les campagnes d'Italie et avec sa personnalité, parce qu'il y a aussi cette capacité exceptionnelle chez certains d'entre eux. Pas chez tous, ceux qui justement vont arriver à générer cette mythologie-là autour d'eux, c'est aussi que ce sont des personnages quand même d'envergure, des personnages exceptionnels, que ce soit Napoléon, Gambetta, Clémenceau, le général de Gaulle, Mendès France à sa manière, bien, on y reviendra peut-être parce que Mendès France, c'est l'archétype,
on va y revenir, bien sûr.
C'est l'archétype de l'homme providentiel malgré lui, mais ce sont des personnalités quand même d'exception. Et je pense qu'il faut accepter aussi, dans, je dirais, l'analyse politique et dans la réflexion qui est la mienne. Moi, je travaille aussi sur les courants, les partis politiques, les sensibilités, mais il faut accepter aussi que parfois, bon, il y ait des figures d'exception qui se détachent.
Alors, je voudrais quand même qu'on reste un tout petit peu sur Napoléon, parce que quand même, c'est l'archétype, c'est énorme. Napoléon, c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a Bonaparte, donc le général qui clôt la Révolution, qui maintient les acquis de la Révolution, mais qui ramène l'ordre, finalement, et une sorte de pouvoir personnel. Ensuite, il est un peu moins populaire lorsqu'il se couronne lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il devient empereur et qu'en plus il veut restaurer une dynastie, parce que son objectif est un objectif dynastique. Et puis il y a la troisième étape, alors qui est après sa mort, après un très très court purgatoire, il devient une sorte de figure tutélaire. De tout le 19e siècle. D'ailleurs, toute la littérature du 19e siècle ne pense qu'à lui. Balzac, Stendhal, Dumas, ne pensent qu'à lui.
Balzac a son buste dans son bureau et il dit ce qu'il a conquis par les armes ou par l'épée, je le conquérais par le livre, hein, par l'écriture. Donc Balzac veut être un Napoléon de
Napoléon des lettres.
Napoléon des lettres. Et je ne parle pas de Stendhal, qui était en admiration devant...
Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, ce sont des romans presque bonapartistes.
Presque bonapartistes, hein, oui, oui.
Donc en fait, Bonaparte et Napoléon, c'est plus qu'un archétype, c'est une ombre écrasante.
C'est une ombre écrasante.
Et c'est un providentialisme à lui tout seul, non ?
Exactement, c'est ce que j'essaie de décrire dans la première partie du livre. Ce qui explique ensuite la manière dont son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a priori n'a pas du tout la même envergure, le charisme, va s'imposer comme ça, mais en quelques mois, puisque Louis-Napoléon Bonaparte revient en France au début de l'année 1848. Il va se présenter dans quelques élections en s'appuyant totalement sur l'image de son oncle. Même ses affiches le montrent. Il y a quelques affiches, on voit Napoléon III, et puis derrière l'ombre de l'empereur, il se présente au nom de Napoléon Ier. Gagne des élections partielles au mois de juin, au mois de septembre, se présente à l'élection présidentielle. Il est quand même, sous la Seconde République. Il a face à lui les grandes figures de la Seconde République.
Lamartine, Ledru-Rollin,
Cavaignac, surtout. Et remporte l'élection, mais alors avec une facilité déconcertante.
Ce sont les campagnes d'ailleurs qui votent pour lui.
Les villes, c'est ça qui est très intéressant, et ça c'est caractéristique de certains hommes providentiels, cette capacité à faire à rassembler des électorats très différents, parce que les campagnes votent pour lui parce qu'elles ont la nostalgie de Napoléon Ier, parce qu'il incarne l'ordre. 1848 est une période socialement extrêmement troublée, mais les villes, une grande partie des villes votent aussi pour lui parce qu'à leurs yeux c'est un réformateur social. Comme d'ailleurs avait voulu le paraître Napoléon Ier dans son mémorial de Sainte-Hélène. Mais bon, on ne va pas revenir à Napoléon Ier. Mais donc, lui, il est capable comme ça, à partir de la gloire de Napoléon Ier, qu'il s'est au fond attribué, qu'il a inséré à sa propre légende, eh bien, il apparaît comme un nouvel homme providentiel.
Est-ce qu'on peut pas considérer, par exemple, que Victor Hugo, qui est un napoléonien au départ,
et qui
devient ensuite un grand républicain, la grande conscience de la République, joue le jeu presque de Napoléon III en le dénonçant comme le Napoléon le petit. Mais finalement, il l'assimile quand même à son oncle, tout en le méprisant, tout en affectant de le même mépriser.
Vous avez raison, tout à fait, parce que c'est un jeu assez subtil, mais au départ, Victor Hugo est favorable. Il y a un journal qui s'appelle L'Événement, dirigé par le fils de Victor Hugo. Et dans ce journal, Victor Hugo est favorable à Louis-Napoléon Bonaparte, avant que Louis-Napoléon Bonaparte ne devienne président de la République, et que d'une certaine manière, il trahisse le serment, d'ailleurs, parce qu'il avait prêté serment à la République, qu'il fasse son coup d'État du 2 décembre 1851. Et là, il devient effectivement Napoléon le Petit, devient un dictateur. Mais
Badinguer,
en même temps,
Badinguer.
Badinguer, alors Badinguer du nom du maçon qui était venu au fort de Ham et dont Louis-Napoléon, qui était emprisonné après avoir fait une tentative malheureuse de coup d'État à Boulogne-sur-Mer, s'était fait emprisonner. Et Louis-Napoléon Bonaparte a pris les habits du maçon Badinguer pour s'exfiltrer du fort de Ham, en étant 1840. Et après, l'opposition républicaine l'a toujours appelé Badinguer en forme de dérision. Mais n'empêche que c'est vrai qu'en le... En le, le en, comment dire, en mettant en miroir de Napoléon Ier, et d'une certaine manière, Victor Hugo l'élève au rang de d'homme providentiel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai beaucoup regardé on en parlait tout à l'heure, les lettres, les chansons, les poèmes qui ont été envoyés à ces hommes-là, et il y en a des milliers sur le site de la Bibliothèque nationale aujourd'hui, même de manière numérique, on peut les consulter. Bon, encore faut-il avoir la patience de les trier, c'est quand même mon travail. Mais sur ces lettres, vous voyez comment se fait une sorte de bascule dans la perception de Louis-Napoléon Bonaparte. Au début, c'est le neveu de tonton, c'est bon, neveu du grand Napoléon Ier. Et puis, progressivement, ça se passe dans les années 51, 52, même une fois qu'il est Napoléon III, c'est-à-dire après décembre 1852, eh bien, il commence à avoir les mêmes qualités que son oncle. Et puis, à partir du moment où on est installé dans le Second Empire, vous avez des historiens de l'époque, historiens hagiographes, des poètes, plus ou moins amateurs, des idolâtres, qui le décrivent comme, finalement, la quintessence de ce qu'a mis en place Napoléon Ier. C'est lui qui est devenu l'homme providentiel. Napoléon Ier était un peu l'esquisse, l'ébauche de Napoléon III.
Donc ce qu'il met en place, donc et qu'on lui accorde comme bénéfice, c'est quoi? C'est l'ordre, le développement économique,
la restauration de l'Église, l'alliance du trône et de l'autel, qui est quand même importante, parce que dans cette idée de l'homme providentiel, il y a quand même toujours cette référence messianique, et l'Église est toujours là. L'Église a soutenu, alors, un peu bon gré mal gré, l'avènement de Napoléon Bonaparte, de Napoléon Ier. Il y avait quand même sous Napoléon Ier un catéchisme napoléonien. On apprenait, et les prêtres et les évêques, comment dirais-je, accompagnaient cette vénération, ce culte de Napoléon Ier. Et donc vous retrouvez ça sous Napoléon III, vous avez aussi l'Église qui est là, l'alliance du trône et de l'autel. D'ailleurs, quand, à partir de 1860, Napoléon III va un petit peu se détacher de l'Église, c'est toute une histoire à raconter, la libéralisation du Second Empire, eh bien, l'Église va être beaucoup moins encline à le soutenir. Donc, il y a tout ça. Il y a cette idée qu'on restaure l'autorité, qu'on clôt une période de trouble, qui était la période des années de la fin de la monarchie de Juillet de Louis-Philippe et de l'année 1848, qui était pleine de révoltes, etc. Donc, il restaure le calme, l'ordre, l'autorité, lance la croissance. Il faut reconnaître que le Second Empire était une grande époque de croissance économique. Certains disent même d'invention du capitalisme. Le capitalisme,
le développement des chemins de fer.
Développement des chemins de fer, des ports,
des banques,
l'osmanisation, etc. Donc il est l'homme de la prospérité. C'est l'homme providentiel, c'est quelqu'un qui va clore les périodes de troubles et puis qui va relancer le pays sur des bons rails.
Alors évidemment, la différence entre l'oncle et le neveu, c'est que le mythe de l'oncle continue à traverser tout le 19e siècle, alors qu'évidemment, le mythe du neveu se fracasse sur la défaite de Sedan, donc en 1870, ouais, laissant la place alors à une nouvelle catégorie d'hommes providentiels. Alors est-ce qu'à partir de 1870, alors vous aimez beaucoup Gambetta, je sais, alors peut-être, donc vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors là, on est dans quelque chose de totalement différent, puisque Gambetta, lui, c'est un... dit moi je ne suis rien, je ne suis que finalement le
commis voyageur
de la démocratie, c'est-à-dire que moi je n'ai aucune fonction officielle, par contre je suis un croisé de la démocratie et je vais aller partout en France, je vais traverser toute la France, faire des discours devant tous les publics de façon talentueuse, enflammée, et convertir finalement le peuple français à une autre idée politique qui est la République. Alors c'est pour ça que vous l'aimez, je crois.
Ah oui, mais je pense qu'il y a des raisons de l'aimer, parce que Gambetta avait la foi républicaine chevillée au corps. Il n'était pas le seul, hein. Il y était un certain nombre autour de lui, des Jules Ferry, Jules Grévy et d'autres, mais qui ont eu des parcours un peu plus, comment dirais-je, critiquables sur certains aspects. Mais Gambetta, c'est quelqu'un qui a la foi républicaine, qui va pendant des années, sillonner la France, aller dans les plus petits villages, pour expliquer aux paysans ce qu'était la République, parce que les paysans avaient une vision extrêmement négative de ce qu'était la République. Ils avaient la vision de 1848, les révoltes à Paris, etc. Ils avaient la vision que le Second Empire leur avait donnée des républicains. J'allais dire, c'était l'homme au couteau entre les dents. Bon, ils vont avoir la Commune de Paris qui va les effrayer encore.
Ça va un petit peu mieux après l'écrasement de la Commune, justement.
Ah, l'écrasement de la Commune, c'est un sinistre paradoxe de l'histoire. C'est que l'écrasement de la Commune, qui a fait des dizaines de milliers de morts, paradoxalement a permis d'installer la Troisième République et de sortir du Second Empire.
C'est qu'on s'aperçoit que la France aperçoit que la République peut être facteur d'ordre, c'est
ça ? Exactement, de prospérité, de croissance, etc. Mais c'est aussi parce que des hommes comme Gambetta... Alors c'est très intéressant que Gambetta, donc, il faut revenir à cette image d'incarnation patriotique d'abord, et puis ensuite d'incarnation républicaine d'un homme qui est capable justement d'instaurer, de mettre en place un système politique viable et avec toutes les lois qu'on connaît, toutes les grandes lois libérales qui sont quand même le socle de notre démocratie encore aujourd'hui. Et Gambetta, à chaque fois qu'on l'idolâtre, dit mais non, c'est moi je ne suis rien, c'est la République qui est tout. C'est pas moi qu'il faut encenser.
Et d'ailleurs, on le prend pas en défaut de volonté de pouvoir personnel, même si ses adversaires l'accusent de vouloir être un dictateur. Parce que évidemment, ça c'est le jeu. Hein, tout le monde.
C'est le jeu. C'est le jeu.
Tout le monde s'y met à l'extrême gauche, à l'extrême droite.
Exactement. Que ça soit les monarchistes ou l'extrême gauche, Clémenceau. Qui va être beaucoup plus autoritaire que Gambetta, mais tout le monde l'accuse d'aspirer à la dictature, et jamais il n'a été dictateur. Le pauvre n'a gouverné que quelques mois entre novembre,
très peu
de temps. Il a été président du Conseil de novembre 1881 à janvier 1882, ce qu'on avait appelé le grand ministère. Il avait l'ambition de faire un ministère qui rassemblerait toutes les sensibilités. C'était un petit peu...
C'est un peu ce qui se passe avec Mendès France, d'ailleurs, non ? Ce très court ministère, très court. Oui.
Alors, vous avez raison, parce qu'il y a quand même une filiation très claire qui est cette sorte d'intégrité républicaine, y compris dans la fidélité à une république parlementaire, puisque Mendès France, c'est ce que certains vont beaucoup lui reprocher, mais rester toujours fidèle à son idée d'une république parlementaire, bon, qui est quand même le système qui fonctionne dans la plupart des pays européens, soit dit entre nous. Bref, donc
sauf que quand on fait ça, on se fait renverser très vite.
Ah ben voilà, ça c'était le problème sous la 4e République, c'est que ça a été le problème de Gambetta en 1882, coalition des adversaires et Gambetta a dit adieu au pouvoir, et ça a été le problème de Mendès France qui n'est resté que de juin 1954 jusqu'à février 1955, ouais. quelques mois. Mais alors, le point commun étant que, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, Gambetta doit le début de sa notoriété à son rôle pendant la guerre de 1870, la manière dont il a incarné la défense patriotique, tandis que Mendès France, lui, doit sa notoriété, entre autres parce qu'il y avait d'autres facteurs, mais il la doit au fait qu'il a mis fin à une guerre, qui est la guerre d'Indochine. Mais c'est, si on regarde ce qui est dit sur Mendès France, à l'époque, sauf à l'extrême droite, chez les poujadistes, etc., il n'est pas du tout pris en défaut de patriotisme. C'est même un acte patriotique aux yeux de ceux qui le soutiennent que d'avoir permis justement la fin de cette sale guerre d'Indochine.
D'ailleurs, il veut dire Mendès France aurait pu d'autant plus être critiqué qu'étant d'origine juive, il aurait pu être accusé, évidemment, par une certaine fraction de l'opinion de vouloir couler la France au lieu de la sauver. Et ça n'a jamais été le cas.
Ça n'a jamais été le cas.
Donc ça, c'est quand même remarquable.
Les gens se souvenaient quand même que pendant la guerre, il s'était engagé dans les forces françaises libres.
Voilà, il s'était engagé dans les forces françaises libres. Et puis, donc, évidemment,
il avait été ministre du général de Gaulle à la Libération. Que c'était un grand résistant. Donc c'était quand même difficile de l'associer à l'antipatriotisme.
Juste un mot sur... On finit sur Gambetta. Alors évidemment, Gambetta, sa carrière s'achève assez vite. Il meurt assez jeune.
Oui.
De façon assez dramatique. Oui. Donc voilà, son tout. Et est-ce qu'il a une postérité de
oui.
Gambetta
oui.
Et si oui, laquelle? Parce que...
Je dirais que finalement, il y a un peu la postérité sous la Troisième République qu'avait eu Napoléon Ier dans le premier 19e siècle. Alors, c'est difficile de faire des comparaisons, mais l'image de Gambetta, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, la référence à Gambetta, l'idolâtrie des républicains, y compris dans des manuels d'histoire, la manière dont on parle de Gambetta, on en parle vraiment comme le père fondateur, comme l'idole de la République. C'est très troublant. Il y a des pèlerinages qui se font au Jardin, là où il avait sa maison près de Paris. Il y a des cérémonies commémoratives en veux-tu, en voilà. Une manière de parler de Gambetta qui fait de lui véritablement le père fondateur, finalement, d'un système politique, d'une époque.
Nous sommes ici à deux pas de la place Gambetta, hein, qui a succédé à la place royale. Hein. Ouais. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Il y a un immeuble en péril sur la place Gambetta. Ah. Là, donc j'espère que c'est pas une encoche dans la mémoire de ce grand homme.
Le problème, c'est que plus grand monde aujourd'hui qui connaît Gambetta, comme la plupart d'ailleurs des figures de la Troisième République, mais paradoxalement. Quelqu'un comme Jules Ferry lui a beaucoup plus survécu dans la mémoire.
À cause des lois scolaires, sans doute.
À cause des lois scolaires, exactement. Et peut-être aussi...
Parce que lui a un bilan politique, alors que l'autre, Gambetta, a simplement un bilan mémoriel, un bilan symbolique.
On peut dire ça,
Qui est plus facilement oublié, puisqu'au fond, il s'efface derrière la République.
Donc. C'est ça. Même si, en réalité, il a éminemment contribué à construire les grandes lois sur la liberté de la presse, ouais. Liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., qui ont été aux origines.
Donc en tout cas, l'un est un homme providentiel, Gambetta, et l'autre ne l'est pas, Ferry. Oui. En tout cas, Ferry, bon, pourtant on se souvient plus de l'un que de l'autre. Bon, voilà, oui. C'est un paradoxe, il faut l'accepter. Mais en tout cas, Gambetta, évidemment, reste, même si certains ne sont pas capables de le localiser correctement, reste évidemment... Son ombre flotte sur
la
République.
J'ai, dans un autre livre que j'ai publié il y a maintenant 3-4 ans, qui s'appelait « La République incarnée », j'ai essayé d'expliquer justement pourquoi il y avait ce paradoxe, ce qui différenciait Jules Ferry de Gambetta. Jules Ferry, à son époque, est, pour deux raisons majeures, extrêmement controversé et n'arrive pas du tout à réaliser ce que Gambetta incarne à l'époque. Bon, il y a trois raisons. Une question de charisme personnel. Il n'y a pas du tout le charisme de Gambetta. C'est pas du tout un commis voyageur de la démocratie comme a pu l'être Gambetta. Bien que ça soit pas un mauvais orateur, loin de là. Mais deuxième chose, c'est qu'il a été maire de Paris au moment du siège et que les Parisiens ne l'ont jamais pardonné, considérant qu'il était le responsable de la famine.
Et du siège,
mais enfin, surtout de la
famine.
On l'avait surnommé Ferry-famine. Bon, ce qui était très injuste par rapport au rôle qu'il avait joué. Et deuxième surnom, Ferry-Tonkin, parce qu'en 1885...
C'est le créateur de l'Empire colonial. Hein.
Alors, en réalité, non, parce que Gambetta, d'abord, en 1881, envoie les troupes en Tunisie. Et donc Gambetta, il est tout aussi colonialiste que Jules Ferry, comme tous les hommes de cette époque qui imaginaient, il faut se mettre dans leur tête pour le comprendre, qui imaginaient que les colonies, c'était le prolongement de la grande nation française,
les lumières au monde entier.
Exactement. Pour les hommes de la Troisième République, le colonialisme, c'est l'équivalent des guerres révolutionnaires de 1793 à 1799, c'est-à-dire que au fond, pour eux, les colonies, c'est comme les républiques sœurs que les révolutionnaires de 93 avaient créé un peu partout en Europe. Je crois que c'est à peu près, si on regarde un peu,
c'est le messianisme français. Quoi.
C'est le messianisme français. C'est l'idée que il y a une grande civilisation, une grande nation qui est au cœur du monde démocratique. Alors, hein. Et qu'il faut la porter.
Et alors justement, d'ailleurs,
races inférieures.
Puisque vous parlez de ces grands hommes de la troisième qui étaient donc pour cette extension du messianisme français, Clémenceau, il n'est pas comme ça, parce que lui, non. Clémenceau est très très anticolonialiste au contraire.
Exactement. C'est.
Et d'ailleurs, il s'oppose à Jules Ferry sur ce thème. Hein,
c'est lui qui fait tomber Jules Ferry.
Il fait tomber Jules Ferry sur la question du Tonkin.
Hein. Exactement.
Voilà. Alors parlez-nous de Clémenceau, parce que là aussi, c'est quelle figure, quoi. Quelle figure. Alors lui, il arrive au pouvoir très vieux. Hein, il a une vie absolument extraordinaire, mais bon, il arrive. Il est d'ailleurs, il passe passe par des moments compliqués. Hein. Panama, il est quand même considéré comme un corrompu.
Oui, ce qui n'était pas d'ailleurs.
Et puis ensuite, il passe aussi pour un casseur d'ouvriers, puisqu'il est ministre de l'Intérieur.
Le briseur de
au moment des grandes manifestations de mineurs.
Donc, ce qu'il a été.
Ou de viticulteurs et qui va réprimer. Mais ensuite, évidemment, il y a 1917. D'ailleurs, il partage avec le maréchal Pétain donc la gloire oui. militaire ou civile. De la victoire de 14-18.
Avec Pétain, mais surtout avec le maréchal Foch, parce que à la fin de la guerre, ils sont admis l'un et l'autre, Clémenceau et Foch, sont admis, selon une procédure tout à fait exceptionnelle, à l'Académie française. Et c'est là que Clémenceau, et c'est pour ça que je l'aime, dit « Donnez-moi 40 trous du cul et je ferai une Académie ». C'est-à-dire que pour lui, ça n'a absolument aucune valeur. Et quand, au lendemain de la guerre, il est idolâtré au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a annoncé l'armistice, etc. D'ailleurs, qui a annoncé l'armistice, je dirais, à rebours de ce qu'aurait souhaité le président de la République, Raymond Poincaré, qui voulait aller jusqu'à Berlin. Mais Clémenceau a dit, pas une goutte de sang supplémentaire à partir du moment où j'ai la possibilité...
On a libéré le territoire national. Ramener l'Alsace et la Lorraine.
Où les opérations militaires sont terminées, pas une goutte de sang supplémentaire. Et quand on l'exalte, l'idolâtre, le 14 juillet 1919, notamment, grand défilé, il en est la vedette, on va dire, il dit toujours, non, c'est pas moi qu'il faut exalter, c'est lui, le poilu, celui qui était dans les tranchées. Et quand il a été président du Conseil, donc à partir du 16 novembre 1917, de mémoire, il a passé la moitié de son temps dans les tranchées. Et c'était pas uniquement de la com', parce que il
même si on a retenu la gabardine, le petit voilà. Le galurin, les bottes dans la boue des tranchées, donc allant au contact du poilu.
Son entourage ne s'est pas gêné de faire savoir, et les journaux illustrés de l'époque, l'Illustration notamment, l'a montré abondamment dans les tranchées. Mais il y a quelquefois risqué sa vie. C'est-à-dire que comme c'était une sorte de tête brûlée, Clémenceau, depuis toujours, bien, il se levait dans les tranchées en disant ben, « Tiens-moi dessus si vous l'osez ». Et quelquefois, ce n'est pas passé très très loin. Donc voilà, on a un personnage là dont le mérite est d'avoir su à ce moment-là, en novembre 1917, alors que la situation militaire est critique et que je dirais que la tendance serait plutôt à une victoire des armées allemandes, d'avoir su galvaniser j'allais dire les troupes, pas simplement les troupes, mais la société française. Hein. Alors, avec beaucoup de, comment dirais-je, au prix de beaucoup d'injustices, contre notamment ceux qu'il appelait les traîtres ou les pacifistes, enfin, il les appelait pas les pacifistes, il les appelait les traîtres, y compris les gens comme Caillaux, etc., tous ceux qui voulaient avoir une solution diplomatique, une solution négociée de la guerre, il les rejette, il les flétrit, il les accuse, il les fait accuser et même condamner, mais il faut lui reconnaître d'avoir eu cette grandeur-là, de souder une population, de lui redonner une énergie au moment où elle était en souffrance.
Et c'est ce moment où la troupe commençait à renacler. Hein,
L'année 1917 est une année très difficile.
Des mutineries. Hein.
Mutineries, guerre, etc.
Alors on a donc il faut quand même qu'on passe un petit peu. Donc on n'a pas encore parlé de De Gaulle, mais avant de parler de De Gaulle, il faut quand même s'arrêter sur le maréchal Pétain. D'ailleurs on a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps donc avec Philippe Collin qui a repris en détail dans le fantôme du maréchal Pétain donc toute l'histoire de Philippe Pétain de façon assez distanciée d'ailleurs intéressante. Il faut s'arrêter quand même sur la figure du sauveur là. Pas seulement sur la figure du vieil homme de collaborationniste que, jugé en 45, mais peut-être sur cette figure du sauveur qui en fait n'est pas s'il est le sauveur de 40, c'est aussi parce qu'il y a une longue préparation qui commence alors à Verdun et qui se poursuit pendant l'entre-deux-guerres.
Oui, ce qu'on sait assez peu, c'est que dès 1934-1935, il y a tout un mouvement dans la société française, un courant politique. Évidemment classé très à droite, autour des Croix de Feu, par exemple, du mouvement des Croix de Feu, et de certains journaux, pour exalter la figure de Pétain et pour le placer, je dirais, en orbite, pour devenir un homme providentiel. Il y a un ouvrage célèbre qui est publié en 1935 par Gustave Hervé. Gustave Hervé, qui est un ancien pacifiste des débuts de la Première Guerre mondiale, d'extrême-gauche, devenu un homme d'extrême-droite. Et Gustave Hervé écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait « C'est Pétain qu'il nous faut ». En disant, voyez, la Troisième République est à bout de souffle, les gouvernements ne tiennent pas plus que quelques mois, c'est la crise économique, c'est la crise sociale, les grands méchants, le loup du Front populaire, vont arriver au pouvoir. C'est Pétain qu'il nous faut pour remettre de l'ordre, de l'autorité, défendre la grandeur de la France et accessoirement remettre en place les valeurs traditionnelles qui ont fait son succès. Parce qu'au fond, Pétain, c'est la restauration de l'ordre moral, un peu de Mac Mahon des années 1870, voire même de l'Ancien Régime. L'idée, c'est de restaurer une France archaïque, hein, qui était pour lui un idéal. Bon, Pétain n'était pas un grand théoricien, en même temps, n'était pas un grand idéologue, mais il a ces idées-là. Et donc, depuis 1935, beaucoup de gens préparent l'avènement de Pétain. Il a quand même été choisi par Gaston Doumergue. Ça, faudrait tout raconter aussi, parce que Gaston Doumergue, personnage qui n'a pas du tout le charisme d'un homme providentiel, est apparu au lendemain de la fameuse émeute du 6 février 1934, où l'extrême droite, les ligues d'extrême droite et les associations d'anciens combattants ont failli
prendre
le palais Bourbon. La Chambre des députés s'appelait comme ça à l'époque. On appelle au pouvoir quelqu'un qui était à la retraite, qui avait été président de la République, très populaire, Gaston Doumergue.
Gastounet, on l'appelait.
Gastounet, très un bon méridional, comme on l'aimait à l'époque. Et Gaston Doumergue remporte un succès fou. Alors, il forme un gouvernement d'union nationale avec Pétain comme ministre d'État, finalement, numéro 2 du gouvernement, numéro 2 un peu décoratif.
À la Défense, je crois.
Oui, il est ministre de... Je sais pas, ça s'appelait pas la Défense. Ça s'appelait...
Des armées.
À l'époque, ministre des... Je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. J'ai oublié. Mais en tout cas, il est le numéro 2 du gouvernement. Et il y a un mouvement qui se crée dans l'opinion française, alors assez éphémère, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à l'idolâtrie de l'homme providentiel autour de Gaston Doumergue. J'en ai pas parlé beaucoup dans ce livre, j'en avais parlé beaucoup plus dans mon...
C'est drôle d'ailleurs, parce que vous parlez de Gaston Doumergue et après vous parlez de François Mitterrand.
Oui.
Vous ne classez pas François Mitterrand parmi les hommes providentiels, vous avez plutôt tendance à le rapprocher de Gaston Doumergue.
Non, non, ce que... Non,
si.
Non, c'est...
Vous le comparez, faites une comparaison.
Ce serait quand même très, très injuste que Mitterrand a beaucoup plus de charisme et de dimension que Gaston Doumergue. Mais c'est vrai que ce que je dis, c'est que en 1981, lorsqu'il arrive au pouvoir, pour une grande partie des Français et pour une partie de la gauche, François Mitterrand apparaît justement comme un homme providentiel. C'est la providence d'amener enfin la gauche au pouvoir sous la Ve République, et puis de résoudre, alors, ce que plus tard Jacques Chirac appellera la fracture sociale. Donc Mitterrand, il a cette image quand même, et d'ailleurs il le sait, puisqu'il va s'auto-panthéoniser en quelque sorte le 21 mai 1981.
En organisant cette cérémonie,
voilà, il va au Panthéon
avec
sa rose et s'inscrit dans l'héritage de Victor Schœlcher, abolition de l'esclavage, Jean Jaurès, excusez du peu, et Jean Moulin, l'homme de la résistance. Donc, mais c'est très intéressant parce que il y a dans cette volonté de syncrétisme mémoriel, il y a une volonté de s'inscrire dans peut-être un peu dans cette généalogie des improvisés.
Mais l'allusion à Gaston Doumergue, c'est plutôt 88.
Voilà,
quand il veut se faire réélire comme le papa des Français.
C'est quand même très paradoxal parce que quand il se fait réélire en 1988, on n'est pas très loin de la trajectoire d'un président plus récent, même très très récent. Quand il se fait réélire en 1988, c'est plus du tout sur la même image. Emmanuel Macron, il nous annonçait une révolution en 2017, c'est
ouais.
Ça. En 2022, on n'est plus dans la révolution, on est dans quelque chose d'autre. Eh bien, Mitterrand, en 1988, n'est plus du tout dans la rupture, dans la révolution, dans les 110 propositions, dans le changement. Il est tonton, il est la génération Mitterrand, il est le père rassembleur. L'image qu'avait Gastounet en 1934.
C'est plutôt le défenseur, le protecteur de la République, le recours contre un danger factieux.
Exactement.
Parce que je me rappelle, il parlait en 88 des bandes, des clans, à propos de Chirac et de ses amis,
et puis de la montée en puissance qui commençait du Front National. Donc lui, il est au contraire le restaurateur.
C'est le protecteur.
C'est le père protecteur.
Mais alors justement, c'est exactement l'image de Pétain en 40.
C'est l'image de Pétain.
Avec la défaite militaire en plus.
Et exactement, avec la défaite militaire en plus, c'est incontestable. Là aussi, tous les témoignages le montrent. Je cite beaucoup de lettres, etc. Et alors, cette fois, avec le soutien très appuyé de la hiérarchie ecclésiastique. Pas tous, mais la plupart des évêques de France, archevêques de Lyon, etc., le primat des Gaules, tous ces gens-là le inscrivent véritablement. L'avènement du maréchal Pétain dans une sorte de généalogie christique, messianique, qui est quand même très troublante parce que justement elle fait rejouer cet émotionnel, cette mythologie qui avait accompagné déjà, j'en parlais, Napoléon Ier.
Vous avez été pioché, comme pour tous les personnages, vous avez été pioché dans les archives, vous avez retrouvé évidemment les courriers, les lettres, les chansons, la tonalité des cérémonies, ouais, qui accompagnaient les déplacements du maréchal Pétain en province. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, ça marche très très bien en 40, ça marche encore pas mal en 41, mais assez vite, vite, ça marche plus très bien. Alors là, ensuite, la propagande finalement prend le relais, exactement, mais au fond, l'incarnation de Pétain, exactement, comme sauveur et comme protecteur du pays, c'est filoche assez vite.
Exactement, c'est ce que disent les rapports des préfets, hein, eux-mêmes s'inquiètent. Les préfets de Pétain sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins d'adhésion. Alors, on reste fidèle à cette image de héros de Verdun, mais dans les circonstances actuelles, il n'est plus le protecteur. On s'aperçoit qu'avec la politique de collaboration active, etc., il n'est plus du tout celui qui incarne justement le bouclier. Ce sera sa grande thèse. Moi, j'étais le bouclier, le général de Gaulle était le glaive. Cette vision-là s'érode très très vite. Et à mesure qu'apparaissent d'autres solutions, et notamment la figure du général de Gaulle. C'est finalement la figure de Pétain s'est érodée plus rapidement que la résistance ne s'est constituée, puisqu'on sait bien que la résistance n'est vraiment efficace qu'à partir de fin 42, début 43.
Donc ça veut dire que vers 1943, il y a une sorte de désespoir là, parce qu'en fait le sauveur s'est avéré, c'est démonétisé. On connaît pas encore.
Oui, mais
connaît pas encore le général.
Je pense que le
pays est sous la botte.
C'est extrêmement complexe. Il y a un historien qui s'appelle Laborie qui a travaillé là-dessus notamment. C'est très compliqué parce que je le répète, il reste malgré tout cet attachement à cette figure tutélaire qu'est le maréchal Pétain. Oui. D'ailleurs, vous vous souvenez de ces images où il vient à Paris en 1944, quelques mois avant la libération de Paris. On est, je ne sais plus, en avril 44. Bon, et il est acclamé par une partie de la population parisienne. C'est-à-dire qu'on retrouve, on va retrouver en août 44 les mêmes qui acclamaient Pétain quelques mois plus tôt,
Gaulle,
et qui vont acclamer De Gaulle. Donc c'est compliqué, mais vous avez raison, il y a quelque chose qui se désagrège finalement assez rapidement dans cette mystique pétainiste.
Alors il faut quand même qu'on parle du général de Gaulle, hein, c'est obligatoire. Voilà, donc puisque au fond c'est le plus récent de nos hommes providentiels,
oui,
même si par la suite, après lui, on peut considérer qu'il y a eu quelques...
Oui, mais c'est ce que j'appelle les poussières du mythe.
Bon, c'est pas seulement parce que ce sont des personnages médiocres, hein,
non,
mais aussi parce que la politique a changé, le monde a changé.
Exactement.
Parce que peut-être aussi que la démocratie fonctionne mieux, hein,
peut-être que
ça peut être ça. Mais alors, pour en revenir à De Gaulle, entre le De Gaulle de 44 et le De Gaulle, le chêne qu'on abat en 69, 70. C'est une figure très complexe, un peu écrasante aussi.
Oui.
Est-ce que De Gaulle a participé à fond à la création de son propre mythe? Est-ce qu'il y a cru toujours? Et est-ce qu'au fond il a quand même réussi à ne pas être un général factieux et à accaparer le pouvoir personnel de façon trop écrasante pour laisser vivre une république dont il a toujours dit qu'il l'avait rétablie, hein?
Oui. Oui, c'est ce qui est intéressant avec De Gaulle. D'abord, il y a toujours cru. Ses sœurs racontent qu'étant tout petit, il s'imaginait déjà comme le connétable de France, celui qui allait remporter les guerres à la tête de ses armées. Bon, après, faut pas aller trop loin dans la psychologie des grandes ce monde, mais qu'il y ait cru, c'est évident en juin 1940. Mais il faut bien voir que bon, son appel du 18 juin, qui est typiquement un appel d'homme providentiel, parce que c'est quelqu'un qui est très peu connu, qui est à l'extérieur du système politique, même s'il vient d'être nommé quelques semaines plus tôt sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Reynaud. Il n'est pas connu par le grand public. Et puis, la caractéristique d'homme providentiel, c'est d'apporter une solution au moment où tout s'écroule. Alors, Pétain, il a amené comme solution l'armistice, je vous protège. De Gaulle, sa conviction, c'est qu'on peut continuer le combat. Mais ce qui est intéressant dans l'appel du 18 juin, c'est que ça n'est pas précisément un appel à, comment dire ça, de nature messianique ou de nature mythologique ou irrationnelle. Il s'appuie sur des faits en disant... Ben,
l'appel à la mobilisation.
Les anglo-saxons, l'empire colonial, il y a encore des réserves. Il y a de quoi espérer. Et ça, c'est intéressant. Il n'empêche que ça, à ce moment-là, se crée une mythologie autour de lui et que il va tout faire pour l'entretenir, cette mythologie.
Alors, évidemment, il apporte évidemment une solution, puisque la France va quand même être dans le camp des vainqueurs.
Complètement. Bon,
c'est quand même en grande partie grâce à lui.
Oui, et puis il a de haute lutte, qu'il a fallu lutter contre Roosevelt, qui n'en voulait pas, contre le général Giraud, qui était la créature de Roosevelt, au fameux comité français de libération nationale d'Alger. Il s'est imposé au général Giraud. Et puis il impose sa mythologie au moment de la libération de Paris en août 1944, parce que là, avec cette descente des Champs-Élysées, seul, un petit peu en avant de tout le reste, sa stature, au moment où ils arrivent à Notre-Dame, il y a encore des tirs, encore des Allemands qui résistent, et il est le seul à ne pas se baisser comme une volée de moineaux, comme ceux qui étaient autour de lui. Et puis, les phrases historiques, Paris outragé, etc., tout le monde connaît ça. Alors, l'idolâtrie dont il est justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est que on voit les écrivains, les dramaturges autour de Mauriac et d'autres, de Paul Claudel, qui vont organiser une soirée en l'honneur du général de Gaulle, réciter des poèmes en son honneur. On voit le grand dessinateur qui était communiste d'ailleurs, Eiffel, qui le dessine justement face à la tour Eiffel. Moi, c'est une image qui est caractéristique de l'homme providentiel. C'est-à-dire que vous avez la tour Eiffel, on est en août 44, la tour Eiffel, Paris tout en bas, à leurs pieds, la tour Eiffel avec le bonnet phrygien de la République et le drapeau tricolore, et qui tend ses bras au général de Gaulle, qui est le seul à sa hauteur, et qui lui dit « mon grand ». Mais ça, c'est... Vous voyez, on est dans ce mariage, cette rencontre entre... un pays et précisément une figure d'homme providentiel, avec toute la mythologie qui l'environne, toutes les outrances, toutes les caricatures, tous les excès, parce que c'est évident que le général de Gaulle n'est pas le seul qui ait animé la résistance, que la résistance intérieure a eu un rôle majeur et qu'on a eu tendance évidemment à tout cristalliser sur lui.
Mais ce qui peut être intéressant chez lui, c'est qu'à la fois il est imprégné de ce messianisme. D'ailleurs, dans ses mémoires, il parle toujours de la France comme une princesse de légende. Bon, voilà.
Exactement.
Donc il a presque une pensée magique. Mais également en même temps, il réalise des choses. Hein. Il contribue à la libération du pays. Et puis, quand il revient au pouvoir en 58, c'est quand même, on le rappelle, pour résoudre un problème qui est un problème majeur, majuscule, obsédant, qui est l'Algérie.
Unique, parce qu'en fait, il est deux fois un homme providentiel. Je dirais presque même peut-être trois fois, parce que pour moi, il y a le 18 juin 40, il y a août 44, où il se fait connaître des Français, où il commence à entretenir sa légende, et puis il y a ce retour du 13 mai, enfin de la crise du 13 mai 1958, préparé là aussi, préparé comme Napoléon a préparé le coup d'État du 18 Brumaire.
Oui, les réseaux gaullistes sont à l'œuvre.
Mais la préparation, elle est bien antérieure à ça. Ce qu'on appelle la traversée du désert de général de Gaulle, c'est pas tout à fait une traversée du désert. Il continue à entretenir ses réseaux. Il va faire des tournées en Afrique, par exemple, en Océanie, où il dit à chaque fois, écoutez, si on m'appelle, éventuellement, je reviendrai.
Il met une grosse pression sur la 4e République des Républiques.
Quoi. Une grosse pression, mais même une fois qu'il a... Alors, c'était au début, la 4e République. À partir de 1951, son parti, le RPF, s'étiole, ne fonctionne plus, il se met en retrait. Mais même pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'il fait en 1954? Il publie le premier tome de ses mémoires de guerre. C'est un best-seller. Et dans les mémoires de guerre, très explicitement, il dit, moi, je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Si on m'appelle, je reviendrai. Et il y a un reportage. Moi, ça m'a vraiment beaucoup, non pas surpris, mais ça confirmait cette idée d'une fabrication. Un reportage qui est fait par le magazine Paris Match à l'époque, qui a vraiment une très très forte audience, où les gens vont à la boisserie, le photographier sous toutes les coutures, et dans lequel, très explicitement, on voit bien que c'est l'équivalent de Pétain. C'est Pétain qu'il nous faut. Au fond, cet article, enfin, ce panégyrique du général de Gaulle en 1954, c'est le général de Gaulle qu'il nous faut.
Et alors, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien, peut-être de Gaulle, il me semble, a dit quelque part, après moi, il a dit quelque chose comme je suis le dernier grand homme de ce pays. Enfin bon, ça manquait peut-être un peu de modestie.
L'humilité proverbiale.
C'était peut-être après moi. Je sais que Mitterrand ensuite a dit je serai le dernier grand président.
Exactement.
Mais bon, De Gaulle lui c'est pas je suis le dernier grand président, c'est je suis le dernier grand héros peut-être. Ouais. Le dernier héros légendaire de ce pays. Après moi, la France ne sera plus qu'une nation de boutiquiers peut-être. Je sais pas ce qu'il pensait. Quelle est la phrase exacte?
C'est à peu près ça. Après moi, le soleil se couchera. Enfin, je ne sais plus très bien ce qu'il dit.
Et puis Malraux en rajoute, lui.
Alors,
André Malraux en rajoute.
Il a son...
J'ai lu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ce petit texte qu'il a écrit après cette entrevue avec le général à l'hiver 69, quand il a quitté le pouvoir. Et ça s'appelle « Les chaînes qu'on abat ». C'est un livre qui... Alors, on ne sait pas d'ailleurs si c'est véritablement la conversation avec De Gaulle ou si Malraux en a inventé la moitié. Parce que
c'est exactement c'est le symétrique du mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz, qui a été le dernier dialogue de Napoléon avec le comte de Lascaz, et dont on ne sait pas si des passages ont été aussi travaillés par le mémorialiste. C'est pareil pour André Malraux, qui sculpte véritablement la statue dans l'histoire du général de Gaulle, plus cette grande croix de Lorraine qui s'élève au-dessus de Colombey.
Cette croix de Lorraine, d'ailleurs, en granit, qui est donc au-dessus des forêts là, de la Haute-Marne, et dont le général de Gaulle disait il n'y a personne autour, mais ça incitera les lapins à faire de la résistance.
Exactement.
C'est ça.
Ah, c'est très intéressant parce que c'est alors à la manière d'un Clémenceau, une manière de... comment dire ça, de se mettre un petit peu au-dessus même de la postérité, finalement, ou à l'écart de la postérité, parce qu'au fond, la postérité, c'est une forme de médiocrité. Elle vous ramène à la médiocrité. Tandis que lui, il est à hauteur de l'histoire. C'est ça, la différence.
Voilà, donc après le général de Gaulle, évidemment, l'époque change là, et donc peut-être que
pareil.
C'est vrai que le dernier chapitre de votre livre sur les poussières du mythe, c'est un peu la queue de la comète.
Mais c'est la manière.
Mais vous n'excluez pas qu'il puisse y avoir d'autres hommes providentiels, et peut-être mais peut-être pas des femmes providentielles, parce qu'on l'a dit hein, après Jeanne d'Arc, il n'y a pas de femmes. Mais c'est pour de très bonnes raisons. Hein. Je crois que c'est de très bonnes raisons. C'est parce que les femmes sont beaucoup plus modestes et réalistes.
Ça, c'est clair.
Elles ne se prennent pas pour qui elles ne sont pas.
Mais il y en a une qui avait quand même essayé de faire rejouer la mythologie en 2006-2007. C'était quand même Ségolène Royal. Je raconte un peu cette élection.
La Madone du Poitou.
Vous avez la Madone du Poitou, qui est une forme de nouvelle Jeanne d'Arc et qui joue beaucoup sur ces codes de la... d'un renouveau joannique, et face à elle, le nouveau Napoléon. D'ailleurs,
Sarcoléon,
c'est comme ça qu'on l'appelait. Enfin, Villepin l'appelait Naboléon, c'était encore plus sympathique. Mais il y a incontestablement, il y a un jeu, là, il y a une tentation de leur part de faire rejouer un peu cette mythologie. Ça a été la même chose pour Macron en 2017. Et pour Zemmour en 2022, avec le succès que...
Donc ça veut dire que vraiment la volonté quand même d'apparaître comme un sauveur et de cultiver cette fibre-là n'est pas morte.
Elle n'est pas morte, la mythologie n'est pas morte. En revanche, la capacité à incarner cette mythologie, à mon avis, elle a beaucoup de plomb dans l'aile, notamment parce que... Je ne parle même pas de ce fossé qui s'est creusé entre les hommes politiques, les citoyens, etc. Cette crise de la démocratie qu'on connaît tous, mais aussi parce que la période d'aujourd'hui, avec cette sorte de proximité, presque cette immédiate que donnent les réseaux sociaux, les smartphones, etc., avec les acteurs politiques, font qu'il n'y a plus du tout cette capacité de surplomb, cet éloignement, voire ce mystère que cultivait, par exemple, le général de Gaulle, considéré qu'il
et que qu'il Mitterrand avait, cultivait aussi.
Et que Mitterrand avait cultivé. Et cette, qu'on le veuille ou non, ce rapprochement, cette proximité, notamment que Sarkozy avait beaucoup favorisé, cette proximité avec l'homme public fait que ça devient très difficile de créer une mythologie autour de lui, parce que précisément il est comme nous, il est entré dans notre quotidien, donc il n'est plus dans ce monde un peu irrationnel, émotionnel, religieux qu'on connaissait à cette époque. Donc moi, ça me semble très difficile aujourd'hui de revenir au niveau de l'incarnation. En revanche, regardez ce qui se passe en Ukraine, dans des circonstances justement qui sont dramatiques, des circonstances historiques. Si vous avez un personnage comme Zelensky qui arrive à se mettre à hauteur de l'histoire, alors là, ça devient possible.
Il est l'homme providentiel de l'Ukraine.
Exactement.
Clairement.
Et suscite une image.
D'ailleurs, on voit beaucoup plus de nombreux livres qui lui sont déjà consacrés,
voilà,
qui marquent, qui montrent la métamorphose de ce
homme. Et je suis sûr que si on commençait à dépouiller les lettres, les poèmes, les chansons qui lui sont envoyées, on retrouverait les mêmes accents que ceux qu'on trouvait pour Gambetta, pour Clémenceau, pour De Gaulle.
Eh bien, Jean Garrigue, je vous remercie. Avant de passer à quelques questions, je voudrais qu'on vous applaudisse et qu'on vous remercie. Merci.